Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous allons continuer notre réflexion sur la culture générale, qui est basée sur le livre que j'ai écrit, « Comprendre la culture générale », paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, mais encore disponible. Nous en sommes maintenant au chapitre 5, consacré à l'homme symbolique. Les émissions précédentes étaient consacrées au langage symbolique. Il y a eu plusieurs émissions là-dessus, c'était le chapitre 4 de mon livre. Maintenant, ce chapitre 5 va dresser le portrait de cet homme symbolique. Il faut partir d'abord de l'idée de multipolarité de l'esprit. Certains définissent l'homme comme animal possédant la parole ou bien la raison. C'est la définition classique des Grecs, en grec « zoon logon ekon », c'est-à-dire un animal possédant le logos. Alors on peut traduire cette expression soit par « animal doué de langage » ou bien « animal doué de raison ». En latin, on aurait « animal loquens », un animal parlant, ou bien « animal rationale », animal pourvu précisément de cette raison, puisque le grec « logos » a les deux sens, le langage et le langage rationnel. Mais je préférerais, dans justement tout ce chapitre, définir l'homme, après Cachirère, comme un animal symbolique, « animal symbolicum ». En effet, la rationalité, c'est une forme de fonctionnement de l'esprit, comme la pensée mythique qui sous-tend certaines cultures, mais finalement, c'est différent. La pensée mythique n'annule pas, justement, la pensée logique, pas plus que la pensée logique n'annule la pensée mythique. Donc, il y a donc là une multipolarité de l'esprit. En effet, à la différence de ce que dit la loi des trois états d'Auguste Comte dans son cours de philosophie positive, il est superficiel de postuler une succession chronologique linéaire et irréversible qui passerait de l'état théologique ou mythique à l'état positif ou rationnel. Donc vous avez logos en dernière instance, et puis vous avez avant mutos, la parole non rationnelle. Donc il y a cette bipolarité. Les états d'Auguste Comte sont bien plutôt des modes différents de perception du monde, chacun étant pertinent dans son ordre, et le dernier état, l'état positif ou scientifique, n'invalide pas du tout le premier état, l'état mythologique ou fictif, vous voyez. Et il y a maintien, par exemple, du premier état, de l'état mythologique, dans l'état positif, dans le dernier, ou à côté de lui. Et à mains égards aussi, on va le voir, le premier état annonce par une troublante préscience ou une curieuse anticipation le dernier état. Il y a une vertu anticipatrice du mythe, nous le verrons un peu plus loin. Alors, au début, l'homme est caractérisé par ce que l'on pourrait appeler un animisme ou bien un holisme, holisme, H-O-L-I-S-M-E, en grec holos, tout entier, c'est-à-dire que l'homme est immergé dans une totalité qui l'englobe, tandis que le mode de perception rationnelle ou logique du monde suppose un individu qui tient le monde à distance, qu'il observe de façon neutre ou objective et qu'il maîtrise par le calcul. Mais l'homme ne s'est pas toujours senti comme un individu séparé des autres ou de la nature. Le petit homme, par exemple, n'a pas conscience d'être un individu au sens strict de ce mot, c'est-à-dire une entité nettement distincte de ce qui l'entoure, un empire dans un empire, comme on dit en latin « imperium in imperio ». Prenez par exemple l'enfant. Eh bien, l'enfant parle de lui à la troisième personne, il est en quelque chose la chose de ses parents, il n'a pas clairement conscience de son « moi ». Au début, comme les animaux, l'enfant ne reconnaît pas son image dans un miroir. Ce qu'il voit est un autre enfant à qui il fait des signes, vous voyez, et tout ce qui l'entoure le relie, et il est relié à tout cela comme à des parties même de sa substance. Prenez par exemple le dessin des enfants, hein. Eh bien, il ne nous montre pas un espace maîtrisé par la raison et tenu à distance par le regard qui le dominerait, hein. C'est bien plutôt un univers polymorphe, extrêmement plastique, un univers déformable en plusieurs directions, analogue un peu à celui de certaines géométries non euclidiennes, à ce que montre aujourd'hui la topologie, hein. C'est un espace virtuel ou en expansion qui n'est pas tyrannisé par la perspective à point de fuite unique, qui provient, elle, de la Renaissance italienne et auquel l'école nous habitue ensuite. Mais que l'espace des enfants soit par main des côtés celui auquel revient l'art moderne doit nous faire réfléchir sur précisément cette multipolarité de l'esprit, logos, mutos, hein, voilà, multipolarité, hein, et faire abandonner l'idée d'une évolution linéaire, irréversible, qui passerait d'un mode archaïque de figuration à un mode mûri, maîtrisé et définitif. Je vous engage ici à lire les études de sociologie de l'art de Pierre Francastel, en particulier le chapitre intitulé « Naissance et destruction d'un espace plastique ». Francastel analyse bien ce retour entre guillemets, hein, opéré par l'art moderne au mode de perception enfantin du monde, enfantin toujours entre guillemets. Et le primitif, de la même façon, n'est pas séparé des choses. Il ne domine rien, ne maîtrise rien par le calcul rationnel, exactement comme pour l'enfant, hein. Il se sent, le primitif, le lieu ou le siège de présence, et les symboles qu'il crée n'ont pour but que d'apprivoiser ces présences, de les conjurer ou au contraire de les susciter, hein. L'anthropologue Lévi-Brull, appelait cet état d'indifférenciation l'état de participation mystique. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de holisme, holos, tout entier, hein. Cet état de participation mystique, commun à l'enfant et au primitif, est provisoire, puisque ensuite se produit chez l'homme adulte ou l'homme dit civilisé, la différenciation du moi d'avec les choses, ou comme disait Carl Gustav Jung, le principe d'individuation. Alors cet état est peut-être inévitable, peut-être nécessaire, mais je dirais la limitation anthropologique qu'il induit n'est pas sans danger. Vous voyez que les nouvelles attitudes et les nouveaux types de représentations seront à partir de là la séparation, le dualisme du sujet et de l'objet. La compréhension rationnelle des choses, qui permet d'agir sur elles par la technique, suppose une mise à distance de ces choses, une observation objective et détachée, et la matière va se réduire à une chose étendue, à une res extensa, comme on dit en latin, comme il se voit chez Descartes, par exemple. Les animaux seront appelés des machines, et le monde va se vider de toute vie, complice et proche, si vous voulez, hein. Alors l'enfant et le primitif sont naturellement animistes. Qu'est-ce que cela veut dire, animiste ? Ça veut dire que l'enfant et le primitif dotent de vie tout ce qui les entoure, hein, ou projettent la vie qu'ils sentent en eux à l'extérieur d'eux-mêmes. Pour eux, tout est proche et tout est vivant. Voyez par exemple ce que retrouvent les poètes, comme Lamartine, hein, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?» ou bien Nerval, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres, ou bien encore Victor Hugo, tout vit, tout est plein d'âme, vous voyez. Mais alors, on pourrait se poser la question suivante, est-ce que l'homme civilisé, adulte, mûri, réfléchi, tout ce que vous voudrez, rationnel, est-ce qu'il est exempt d'animisme? Je n'en suis pas sûr. Par exemple, lorsque nous nous emportons contre une chose qui nous résiste, mettons une porte qui ne veut pas s'ouvrir, une voiture qui ne veut pas démarrer, etc., lorsque nous nous emportons jusqu'à insulter justement les objets ou les frapper, est-ce que nous ne nous comportons pas comme un enfant, un sauvage, un primitif, hein, saleté de porte, etc., saleté de voiture, vous voyez ? Quelle différence entre un homme évolué et un fou ? Finalement, elle est infime, cette différence. C'est une différence de degré, en tout cas, et non pas une différence de nature. Et le langage lui-même est tout empreint d'animisme. Par exemple, on nous dit que la montagne se dresse, vous voyez, comme si elle était personnifiée. La plaine va s'étendre devant nos yeux, hein, voilà, ou l'arbre se penche, etc. Donc personnifier les choses est peut-être ce qu'il y a de plus déraisonnable, hein. Alphonse Allais, de façon amusante, dit « Est-ce qu'il faut alors aller consoler les paysages désolés, hein ? Est-ce qu'il faut insulter une nuit qui tombe ? La nuit tombe, pauvre nuit, pourvu qu'elle ne se casse rien, qu'elle ne se fasse mal, pas mal, etc. Mais finalement, cet animisme, c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus précieux en nous, car nous nous sentons entourés, nous ne sommes plus seuls. Et vous voyez que, comme dans ces auberges espagnoles où le voyageur apporte son repas, de la même façon, l'univers nous renvoie notre propre image. Le printemps va s'auréoler de notre joie, et notre mélancolie va assombrir l'automne. Mais nous voyons les choses ainsi parce que nous avons intériorisé le phénomène. En réalité, pour l'âme primitive, le printemps est radieux, vraiment. L'automne est mélancolique. Le monde vit autant que l'homme, vous voyez. Alors ce sentiment d'une proximité animée des choses est la base la plus ancienne de la religion. Un des sens de religio, c'est lien, liaison, religare, relier. Ce n'est pas le seul sens, hein, bon, mais il y a relegere, relire, hein. Mais un des sens, c'est bien ce lien, hein. Et c'est l'immersion, là, dans ce que les primitifs polynésiens, par exemple, appellent le mana, hein, le mana, M-A-N-E-A, et les japonais shintoïstes, animistes, le monde des kami, kami, K-A-M-I, c'est-à-dire le monde des esprits. Donc l'attitude est bien holistique, en ce que l'homme est immergé dans un monde de présence qui le traverse de toutes parts, entièrement, holos tout entier. Vous voyez, l'homme archaïque, l'enfant, le poète sont pénétrés par le monde. Et au contraire, l'homme cartésien, adulte ou civilisé, arpente le monde qu'il va mesurer et jauger. Cette attitude-là est bien résumée par le héros du château de Kafka, qui justement est un arpenteur géomètre, hein. Donc, une typologie des constructions symboliques, je rappelle que dans mon livre, pour appréhender la culture, je me suis basé sur le concept essentiel, fondamental, de construction symbolique. Donc, si on fait une typologie des constructions symboliques, on pourrait définir par manique, à cause de mana, hein, une attitude d'abandon au monde ou de porosité, par opposition à une attitude de maîtrise ou de domination, qui alors serait chamanique ou prométhéenne. C'est une des deux postures de l'homme, fondamentalement, face au monde. Il y a donc cette bipolarité qu'il faut ici souligner. Voilà, donc l'Occident et l'homme adulte chez nous cherchent la domination sur le monde, et cette domination se manifeste par le point de vue unique porté sur le monde. Donc on hiérarchise tout de façon lucide et le monde apparaît très stable. La représentation est désormais fixe. Voyez par exemple le livre de Panofsky, La perspective comme forme symbolique. Il parle de la perspective issue de la Renaissance italienne. Voyez aussi, pour résumer cela, l'attitude d'Ulysse qui, dans l'Odyssée, est attaché au mât et qui écoute, sans dommage pour lui, le chant des sirènes, vous voyez, hein. Voyez aussi la position chez nous du spectateur passif et immobile dans le théâtre dit à l'italienne. Alors il y a bien sûr des dangers dans cette attitude. Les dangers, c'est la paralysie, l'absence de vie. Et tout cela est souligné dans le livre d'Adorno et Horkheimer qui s'appelle « La dialectique de la raison », vous voyez. Alors qu'au contraire, l'expérience primitive, enfantine, etc., émotionnelle, authentique, elle est constamment instable. Il y a des traces de cela dans le discours classique même. Par exemple, les énalages, qui sont des changements de perspective dans l'énonciation. Vous voyez par exemple les pas de Valérie, la fin. Si de tes lèvres avancées, tu précèdes pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées, la nourriture, tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées, la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas. Vous voyez, ne hâte pas, deuxième personne, et puis du singulier, et vous attendre, deuxième personne, du pluriel. Ça, c'est ce qu'on appelle une énalage pronominale, c'est-à-dire un changement de perspective dans l'énonciation concernant les pronoms. Donc on peut aussi voir le cubisme et les dessins d'enfants comme des énalages plastiques, des généralisations de l'énalage à tout le champ de l'expression, changement constant de perspective ou de point de vue. Donc on pourrait définir l'art tout entier comme la déstabilisation salvatrice en quelque sorte de l'homme rationnel. L'artiste serait un naufragé volontaire. Vous voyez exactement ce que dit Rimbaud dans le bateau ivre. Et les péninsules des marais n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. En fait, tohu-bohu, c'est le début de la Genèse. La terre était tohu-bohu, une expression hébraïque qui veut dire un chaos. Alors Dieu a mis de l'ordre par des séparations, justement dans ce chaos informe. Mais l'artiste va détruire ces séparations pour revenir à une confusion salvatrice. Donc c'est un naufrage salutaire, c'est un nouveau baptême. Et l'art compense toujours l'orientation unilatérale des cultures. Michaud dit bien dans Un barbare nazi, qu'est-ce qu'une civilisation? Il répond, une impasse, vous voyez. Alors, il y aurait ici une autre piste à explorer. Peut-être que la mise à distance du monde, que j'ai définie pour caractériser la rationalité, est plus masculine, peut-être. Et peut-être que la proximité ou le contact, l'immersion dans le monde, sont des choses plus féminines, peut-être. Masculine est, par exemple, la représentation du savoir en termes de vision. Savoir, pour nous, souvent, c'est voir. C'est ce qu'on appelle la pulsion scopique, vous voyez l'histoire de l'œil de Georges Bataille. Mais pour l'esprit féminin, il y a plutôt au contraire un abandon au monde. Voyez le livre d'Annie Leclerc qui s'appelle Paroles de femme. Il y a un test à faire, par exemple, auditeur. Je vous invite à regarder vos ongles. Eh bien, si vous êtes un homme, manifestement, vos doigts seront dirigés vers vous-même, vers vos yeux. Et si vous êtes une femme, il me semble que les doigts seront étalés, étendus, vers l'extérieur. L'inspection des ongles ne se fait pas de la même façon chez l'homme et chez la femme. Ça voudrait dire que l'homme a un tropisme de l'examen particulier et précis de près, une inspection méticuleuse, tandis que la femme, justement, étendant ses bras vers l'extérieur, eh bien, se sent reliée au monde dans lequel elle est immergée. Bon, c'est une piste un peu humoristique que je suggère. Bien sûr, il ne faut pas essentialiser le masculin et le féminin. Il y a toujours des exceptions. Néanmoins, je crois que, c'est quand même intéressant à expérimenter. Alors, j'ai parlé des énalages. Il y a aussi une autre figure qui est l'hypallage, et dont il faudrait faire l'anthropologie. J'ai dit tout à l'heure la proximité animée des choses. Eh bien, c'est une hypallage pour dire la proximité des choses animées. L'hypallage, exactement comme l'oxymore qui unit des opposés, c'est la revanche de la vie sur la logique, c'est la revanche de la perception sensible des choses qui est synthétique sur l'analyse des choses et sur leur discrimination par l'intellect. En cela, l'hypallage résume l'holisme, hein, dont j'ai parlé, l'abandon au monde et la porosité, par quoi commence sur la terre le séjour de l'homme. Voyez par exemple une expression comme « le silence vert des prés ». C'est une expression totalement poétique, mais pourquoi ? En quoi est-elle poétique ? Parce qu'elle est plus proche de la perception sensible qu'une expression comme « le silence des prés verts ». Hein. Le silence des prés verts, c'est une réattribution logique ultérieure du qualifiant à ce à quoi objectivement il se rapporte. Hein. Dans la réalité, on a perçu ensemble d'abord le silence et le vert, d'où l'expression « silence vert hein. ». Et rectifier, dit l'esprit rationnel, est nécessaire, mais en fait c'est absurde, hein, c'est absurde. Il vaut mieux justement dire « le silence vert des prés » que « le silence des prés verts » parce que la première formulation est sensible et la seconde est logique, procède d'une analyse qui vient après. Prenez aussi la double hypallage du très beau vers de Virgile, que je cite d'abord en latin, « Ibant obscuri sola sub nocte per umbram », je traduis « ils allaient obscurs dans la nuit solitaire à travers l'ombre ». On ne gagnerait rien à rectifier par la logique cette expression en disant « ils allaient solitaires dans la nuit obscure ». Parce que si on fait cette rectification, il ne restera plus rien de cette intime et fraternelle complicité entre l'homme et la nuit, de cette intervention ou de cet échange intime entre eux. Hypalatein en grec veut dire échanger. En effet, la nuit passe dans les hommes et la solitude des hommes passe dans la nuit. Il y a là une union, une symbiose, une vie commune, symbiose. Hein. Voilà. Donc, lorsque finalement on est dans cet état d'immersion, tout se confond et la poésie y gagne. Alors bien sûr, c'est la défaite de la rationalité. Alors vous voyez, pour reprendre notre problématique d'Auguste Comte, qui pense que l'état positif ou logique, annule l'état théologique ou fictif, eh bien je pense que l'âge positif laisse subsister à côté de lui des traces ou des empreintes d'un ancien état. Et cet état n'est pas du tout inférieur, mais il est différent. Hein. Et c'est précisément cet état que réhabilitent la poésie et l'art. Et ces traces ne sont pas des cicatrices du tout, mais des sources de vie, vous voyez. Donc c'est donc une raison de plus pour parler d'une multipolarité de l'esprit, d'une multipotentialité, et aussi d'une coexistence dès l'origine du symbolique et du logique. Il ne faut pas parler d'une succession de l'un à l'autre dans quelque sens qu'on la suppose, ou d'une subordination de l'un à l'autre. Les figures de style, par exemple, en littérature, ne sont pas là pour orner le discours logique, pas du tout, mais elles renvoient, comme dit Baudelaire à propos des rhétoriques et des prosodies, à l'organisation générale de l'être spirituel, dont les figures sont un retour, justement, à une perception sensible non encore corrigée par la logique. Ce ne sont pas des fioritures, des fleurs de rhétorique au moyen de desquelles on ordonne un discours qui serait primitivement logique. Non, il faut tout inverser. Hein. Alors, les implications spirituelles sont importantes. En effet, original veut dire originel. J'ai parlé de source, hein, non pas de cicatrice d'un ancien état, mais de source vitale. Il s'agit donc de remonter à la source, une source de vie qui a été perdue, oubliée ou bien laissée derrière nous. En effet, dans la vie, il vaut mieux remonter à la source que de descendre le fleuve. Hein. Descendre, se laisser aller à volo comme un bois flotté, hein, justement, est un moins bon destin que de remonter, justement, à cette source dont on provient. Le choix, il est simple dans la vie. Est-ce qu'on veut être un bois mort, un bois flotté, ou bien un saumon vivant, ce saumon qui revient à la source, hein ? Je pense qu'il ne faut pas être cadavre, charrié au fil du courant. Alors j'ai expliqué tout cela, j'ai développé tout cela dans un autre livre, hein, paru chez Goliath, hein, qui s'appelle « La source intérieure ». Donc la troisième édition est parue et disponible chez cet éditeur, qui se trouve à Lyon, Goliath, G-O-L-I-A-S. Hein. Alors cet état holistique dont je viens de parler est précisément un état de non-dualité. Je me confonds avec les choses que je vois. Hein. Je suis solitaire, je passe dans la nuit, eh bien je suis nocturne, hein, obscur, et la nuit est solitaire, vous voyez. Ou bien je suis d'un pas rêveur, le sentier solitaire. Hein. Donc ma solitude se projette sur le sentier. Hein. Donc cet état holistique, justement, nous montre ce qu'est la non-dualité que recherchent toutes les spiritualités du monde. En sanskrit, la non-dualité s'appelle Advaita. Hein, Advaita. Donc, les Upanishads de l'Inde nous disent, tu es cela, tadvam asi, tu es ce que tu vois, hein, tu te confonds avec ce que tu vois. Ton âme intérieure, Atman, se confond avec la réalité que tu as en face de toi, la réalité ultime qui est Brahma. Et lorsqu'on réalise cet état de non-dualité, alors le salut spirituel est accompli, vous voyez, et c'est l'état aussi exprimé par le geste que l'on appelle Namasté, N-E-A-M-E-A-S-T-E, accent aigu. C'est le geste de la salutation indienne, quand deux personnes se saluent, et que l'on trouve aussi lors des séances ou des cours de yoga, hein, il est d'usage de faire ce geste Namasté. Ce geste signifie « toi que je vois, qui est en face de moi, tu es moi, et moi je suis toi aussi, hein. Toi tu es un alter ego, c'est-à-dire un autre moi-même, vous voyez. Donc tout est lié ici. Alors, bien sûr, ma vision, hein, en général, dans le monde de l'esprit, c'est de relier des choses qui ne sont pas habituellement reliées, qui sont considérées comme séparées. Lorsque je parle de rhétorique, par exemple, dans tous mes travaux sur la stylistique ou la rhétorique, hein, il y a par exemple chez le publieur un livre électronique qui s'appelle 99 réponses sur les procédés de style. Hein, donc, c'est un livre dans lequel je vois les enjeux de la rhétorique ou de la stylistique, hein, comme des enjeux de spiritualité, vous voyez. Alors, d'habitude, on dit, oulala, on franchit une limite, il ne faut pas mêler les questions. Moi, je pense que l'esprit est un, hein, que tout se correspond, hein, et que, comme le disait Paul Valéry, mélange, c'est l'esprit. Voilà, j'espère que de cette émission ne sera pas dégagée une notion de confusion destructrice, hein, puisque je suis, moi, au contraire, pour la confusion vitale, hein, et de toutes les façons, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour creuser encore cette question. Donc à bientôt sur cette même antenne.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.